voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. On retrouve Hélène Renard, mais aussi Fernand Guillot qui prête sa voix dans cette émission. Cette rubrique intitulée « L'auteur caché », c'est une rubrique en forme de jeu. Je vous propose de tester vos connaissances en littérature française. Alors voici 10 indices sur la biographie de notre auteur, 10 lignes ou un peu plus d'extraits de ses œuvres. Et en moins de 10 minutes, vous aurez découvert le nom de cet auteur caché. Rassurez-vous, il est célèbre et bien sûr, il fut académicien. Vous êtes prêts? On commence par le premier indice. Il concerne le nom de notre auteur. Évidemment, il est célèbre par son nom de plume, mais pour l'état civil, il a été déclaré sous un autre nom, celui de son père, évidemment, que je vous livre, Louis Farigoul. Papa Farigoul était instituteur à Paris. Et notre auteur passe donc sa jeunesse dans la capitale, même si son lieu de naissance fut en Auvergne, dans le Velay, en Haute-Loire, à Saint-Julien-de-Chapteuil, pour être précis. Deuxième indice, jeune homme à peine sorti de sa classe de Cagnes en 1903, notre auteur a une révélation, celle de la vie unanime, l'unanimisme. La vie unanime, c'est d'ailleurs le titre d'un recueil poétique qu'il publie en 1908 et qui compte parmi les œuvres poétiques que notre auteur écrira toute sa vie durant, même s'il est devenu célèbre non pas par ses poèmes, mais par ses romans. Alors voici quelques-uns des titres poétiques qui jalonnent sa carrière. L'âme des hommes, Odes et prières, Un être en marche, Pierre levée, Amour couleur de Paris, L'homme blanc. Troisième indice, notre poète certes écrit des vers, mais il a une conception personnelle de la versification. Il a d'ailleurs publié un petit traité de versification en 1923 pour dire qu'il est opposé au vers libre, qu'il s'accorde quelques licences avec la métrique et qu'il ne se sent pas contraint par la rime. En voulez-vous un exemple? Voici la première lecture extrait de son recueil « Un être en marche ». Il y raconte la sortie en banlieue d'un pensionnat de jeunes filles.
« Il fait soleil, elle s'en va, la pension de jeunes filles. Elle repousse les murailles comme l'on se déshabille. Elle glisse en longeant la cour vers le perron et vers la grille. Le gravier du chemin fait un bruit de garçons qui jouent aux billes. Les corps, en descendant les marches deux à deux, s'élèvent et s'abaissent, comme les flammes qui défaillent sous les nœuds des souches trop épaisses. Les plus petites filles marchent en avant pour attendrir l'espace. La pension caresse avec leurs pieds d'enfant la rue où elle passe. Elle grandit d'un rang à l'autre, sans surprise, comme une rive en fleurs. Elle est comme un théâtre où se seraient assises des couleurs. Elle est pareille aux toits qui rapprochent du ciel leurs tuiles alignées et qui aiment mêler des ailes d'hirondelles au vol de leur fumée. Les bras aux poignets nus qui tiennent des ombrelles et rament en cadence font rêver aux maisons que de l'eau coule entre elles et qu'une barque s'y avance.
Pas facile de lire la poésie de notre auteur, mais cessons de parler de poésie pour aborder le roman. Déjà en 1911, alors que jeune agrégé, notre auteur enseigne la philosophie, il publie ses premiers romans « Mort de quelqu'un » et « Les copains ». La guerre de 14 va momentanément stopper son élan, il est mobilisé dans le service auxiliaire et bien qu'il n'ait jamais connu le front, il saura plus tard le décrire avec une admirable vérité. Cinquième indice, après la guerre, dans les années 20 et 30, paraissent ses premières œuvres maîtresses au théâtre. Sa pièce « Monsieur le Trouadec, saisi par la débauche » remporte un vif succès, au point qu'il en écrira une trilogie. Puis sa farce satirique, « Knock » ou « Le triomphe de la médecine », et justement un triomphe, le talent de Louis Jouvet, qui crée la pièce en 1923 n'y fut pas étranger. Voulez-vous goûter un instant la vigueur du style et la verve efficace de notre auteur dans la farce ? Voici lu par Fernand Guillot un court extrait de Knock, lequel dialogue avec le bon vieux docteur Parpalais qui lui a vendu sa clientèle. Knock, c'est un rôle que vous connaissiez bien, Fernand.
Oui, surtout le docteur Parpalais que j'ai joué plus d'une centaine de fois avec le cher Robert Lamoureux, que nous saluons d'ailleurs. Et en effet, le docteur Parpalais commence d'ailleurs cette petite scène en disant « Docteur Knock, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier ?» Oui, 32 pages, in octavo, sur les prétendus états de santé, avec cet épigraphe que j'ai attribué à Claude Bernard, « Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. » Mais je ne vous comprends pas. Il y a une vingtaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France de Marseille, rayon des cravates. Je perds mon emploi. En me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes demande un médecin, le grade de docteur n'étant pas exigé. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Rien, sans doute. Oui, vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant « Messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai même quelque chose de plus grave, je ne sais pas encore quel sera le sujet de ma thèse. » Ils me répondent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur et qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse. Je réplique aussitôt, bien que n'étant pas docteur, je désire, pour des raisons de prestige et de discipline, qu'on m'appelle docteur à bord. Ils me disent que c'est tout à fait naturel. Mais je n'en continue pas moins à leur expliquer pendant un quart d'heure les raisons qui me font vaincre mes scrupules et réclamer cette appellation de docteur à laquelle, en conscience, je n'ai pas droit. Si bien qu'il nous est resté à peine 3 minutes pour régler la question des honoraires. Mais vous n'aviez réellement aucune connaissance ? Entendons-nous ? Depuis mon enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces médicales et pharmaceutiques des journaux, ainsi que les prospectus intitulés « Mode d'emploi » que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop qu'achetaient mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé, et encore aujourd'hui, je puis vous réciter une lettre admirable adressée en 1897 par la veuve P. de Bourges à la tisane américaine des Checkers.
Toute la pièce est un régal, n'est-ce pas ? Et les scènes sont vraiment dignes de Molière. Molière, sous le patronage duquel notre auteur caché se place ouvertement. Nous en sommes au 6e indice et dans les années 20. Sachez que notre auteur était avec Pirandello et Georges Bernard Shaw, l'un des 3 dramaturges de son temps les plus joués dans le monde. 7e indice, et pourtant, dès les années 30, il entame la rédaction de son roman Fleuve, très original dans sa conception. Il publiera d'abord 4 tomes, puis 2 tomes par an pendant plusieurs années. Ce travail d'écriture titanesque ne l'empêche pas de faire de la politique. Entre les deux guerres, il se lie avec Édouard Daladier, soutient le Front populaire, se montre antifasciste et pourtant croit à l'amitié possible entre l'Allemagne et la France, même après l'accession d'Hitler au pouvoir. Arrive la Seconde Guerre mondiale, notre auteur gagne les États-Unis puis le Mexique et de là, il poursuit la rédaction de son œuvre grandiose, dont je ne vous dis pas encore le nom, ce serait trop facile, mais qui comporte 27 volumes. 8e indice, en 1945, notre auteur est poussé par son confrère Georges Duhamel à se présenter à l'Académie française, mais il veut de nouveau quitter la France pour le Mexique. Il est donc élu en son absence, le 4 avril 1946, au fauteuil 12. Et ce fauteuil était vacant, non par la mort de son prédécesseur, Abel Bonnard, mais, fait exceptionnel, par la destitution de celui-ci pour collaboration avec l'ennemi. Et cela ne dispensa pas notre auteur caché de prononcer, comme il est d'usage, l'éloge de son prédécesseur. 9e indice, je l'ai dit, l'œuvre romanesque de notre auteur est à la fois grandiose et originale. Il s'agit d'une vaste fresque de la vie politique, économique, sociale entre 1908 et 1933. une saga, comme on dirait aujourd'hui, un immense panorama, mais avec une méthode particulière, parce qu'il ne retrace pas l'histoire d'un héros, mais il décrit, et je le cite, « une diversité de destinées individuelles qui cheminent chacune pour leur compte en s'ignorant la plupart du temps. Il veut montrer le foisonnement de la vie et il décrit avec une précision scientifique de nombreux milieux professionnels très divers. » Alors voici, lu par notre comédien Fernand Guillot, un extrait de cette œuvre célèbre. L'homme ici décrit, Vidal, est un électricien ambulant dont la camionnette a été aménagée et qui fait l'émerveillement du jeune Charles.
« Viens avec moi à la camionnette, tu tâcheras bien de te rappeler où je prends mes affaires. Ça pourra te servir pour une autre fois. » La visite à la camionnette fut l'occasion d'un petit dialogue entre Vidal et la chienne. « Ne bouge surtout pas, » disait Vidal. « Je vais rester longtemps. » Il appuyait sur le mot « longtemps » et il l'accompagnait d'un hochement de tête lent, plusieurs fois répété, avec lequel la chienne devait être familière. Elle répondit par des gestes des oreilles et de la queue et par un faible gloussement. Le tout voulait dire à l'évidence « Compris, on ne bouge pas. Ce n'est pas spécialement drôle, mais on y est habitué. » Le travail s'engagea et se poursuivit sans incident notable. Charles avait admiré l'adresse de Vidal dans sa façon de parler aux gens. Il l'admira de nouveau dans son traitement de l'ouvrage. Le jeune garçon ne connaissait pas le métier d'électricien, mais il avait vu souvent des camarades ou des adultes travailler auprès de lui. Il savait déjà qu'il existe plus d'une manière de travailler gauchement et qu'elle se trahisse dès les premiers gestes. Il y a l'homme, jeune ou vieux, qui semble n'avoir rien prévu, rien calculé, qui change perpétuellement d'avis, qui a des repentirs, qui recommence. Il y a celui qui semble n'avoir pas de mémoire. S'il remonte une pièce, il s'aperçoit en terminant qu'il en a oublié une autre qui doit se fixer au-dessous. Il y a celui qui n'a jamais l'outil qu'il lui faut sous la main. Quand il est en haut de son échelle, c'est toujours son marteau qu'il trouve au moment d'arracher un clou. Ses tenailles au moment d'en planter un. Alors il ne cesse de trotter en maugréant du haut en bas de son échelle, persuadé que la guigne s'attache à lui. Il y a celui qui est constamment affolé, comme si la petite difficulté qu'il rencontre se présentait pour la première fois dans l'histoire du monde. Celui qui est constamment en sueur, comme si l'immensité de la besogne le débordait. Et 10 autres qui vous jouent chacun avec une conviction que rien n'entame leur comédie particulière. Vidal, lui, était beau à regarder. Il glissait à travers son travail, sans accrocher jamais, comme s'il eût repéré d'avance tous les chemins. Il ne semblait pas pressé. On eût dit qu'il acceptait une occasion, comme une autre, d'occuper ses mains pour se distraire l'esprit.
« Tu t'embêtes, je ne te fais rien faire. Oh non, 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 je regarde, ça m'intéresse.
Tiens. » « Voici un tournevis. Démonte-moi le vieil interrupteur, c'est facile. »
Dixième indice, ce passage permet de mesurer la place importante que notre auteur dans son œuvre a réservée au travail manuel et à la dignité de ce travail. Il est extrait du 25e volume de son œuvre magistrale, dont je vous donne enfin le titre « Les hommes de bonne volonté ». Alors avec cela, vous l'avez forcément reconnu, oui, non? Il s'agit bien sûr de Jules Romain, qui vécut jusqu'à l'âge de 87 ans, mourut en 1972 et couvrit ainsi de son immense talent une grande part du XXe siècle. Merci à Fernand Guillot d'avoir assuré les lectures. D'autres auteurs cachés vous attendent sur le site de Canal Académie, canalacademy.com. Amusez-vous bien!